Bonsoir et bon début de semaine à tous. Province de l'Ituri, environ 46 personnes ont été tuées par des hommes armés dans la nuit du dimanche 11 à ce lundi 12 juin sur les sites des déplacés de Lala, proche du centre des négoces de Boulé dans le territoire de Djougou. Plusieurs sources dans la région affirment qu'un groupe d'hommes munis de fusils et des machettes appartenant à la milice Codeco s'est introduit dans le site de Lala vers 2h du matin en tirant plusieurs coups de feu. Ces hommes ont tué à la machette et par balle 47 personnes, dont 13 femmes et 23 enfants. Le vice-président du site de Lala, Stéphane Banga, révèle que les déplacés vivent sous menace permanente. Des hommes armés exigent le rétablissement de la paix afin de leur permettre de regagner leur village d'origine. Ce massacre au site des déplacés intervient 10 jours après le dialogue entre 4 groupes armés, dont la Codeco, tenu à Arou, à environ 300 km au nord-est de Bounia, chef-lieu de l'Ituri. À l'issue de ce pourparler, ces milices s'étaient engagées pour la énième fois à mettre fin aux hostilités et à respecter les instruments juridiques nationaux et internationaux. Quelle lecture faire de cette énième attaque contre un site de déplacés par des hommes armés? Nous en parlons ce soir avec Bertin Moubonji, le député national cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est président de la commission des conseils sécurité à l'Assemblée nationale. Bertin Moubonji, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Gracien de Saint-Nicolas, Irachan, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est député national, élu de la ville de Bounia en Ituri, les cadres d'Ensemble pour la République, parti politique, membre de l'opposition. Et aussi avec nous dans ce débat, Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu. Il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les co-débatteurs, bonsoir à tous les auditeurs des radios 4.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Martin Bakonga de Kinshasa. Je me pose juste la question de savoir quelle est l'importance de l'état de siège qui était censé sécuriser la population de l'Ituri. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, en Ituri, environ 46 personnes ont été tuées par des hommes armés la nuit dernière au site des déplacés de Lala, proche du centre des négoces de Boulé, à environ 100 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon des rescapés, ces malfrats ont également incendié des abris et emporté plusieurs biens. Des sources officielles attribuent ce massacre des civils à certains hommes armés qui veulent saboter l'accord de paix d'Arou entre les groupes armés. Martial Kizia, Biamungu, nous en dit plus.
Plusieurs sources de la région affirment qu'un groupe d'hommes munis des fusils et de machettes s'est introduit dans les sites de Lala vers 2h, attirant plusieurs coups de feu dans toutes les directions. Selon les témoignages de certains rescapés, ces malfrats ont tué à la machette et fusil 46 personnes, dont 16 femmes et 23 enfants. Ces déplacés qui se disent être sous la menace permanente des hommes armés demandent une seule chose, le rétablissement de la paix pour retourner dans leur village. Banga Stéphane, vice-président du site de Lala, parmi les rescapés.
Aux autorités, nous demandons ceci. Comme ça a l'air du passe de terminer cette guerre, qu'ils nous ramènent dans nos villages, parce que le massacre dans les sites, ça a commencé à Savo, à Drodo, et aujourd'hui, au site de Lala.
Des autorités qualifient ces tueries et d'actes de sabotage du processus de paix d'Arou. Les gouverneurs des provinces promet de se prononcer dans quelques heures sur cette situation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci Kizabiamungu pour ces détails, Bertien Mobozi. Je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la nation, vous êtes président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Énième attaque contre un site des déplacés par des hommes armés. Les déplacés se sont abandonnés par le gouvernement. Selon des sources sur place, il n'y a aucun militaire FARDC tout autour du site. Comment on peut expliquer ces attaques à répétition, malgré l'état de siège qui a été instauré justement pour pacifier ces zones en proie à l'insécurité?
Vous savez, madame, À ce stade, je voudrais d'abord compatir avec nos frères et sœurs qui ont été massacrés par des inciviques, hein, et des personnes qui ont décidé de perturber la quiétude de nos frères et sœurs. Et c'est ici l'occasion pour moi de présenter toutes mes condoléances à toutes ces familles. Et je voudrais aussi, par la même occasion, demander que nous ne puissions pas déplacer le débat. Ici, nous sommes face à une situation que nous déplorons. Et à ce stade, personnellement, j'attends à voir la version officielle qui nous sera donnée par le gouverneur militaire de l'Ituri, et qui a la charge de conduire non seulement les opérations, mais aussi de gérer sur le plan administratif la province. Et donc, vous pouvez vous rassurer qu'à notre niveau, en tant que député, nous sommes très, très, très touchés par cette situation. C'est même pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avions prévu une audition au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions échanger avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, mais aussi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Celui de la Défense se trouve être à Goma pour l'instant. Et vous pouvez vous rassurer que de la même manière que nous sommes très préoccupés par cette situation, ce dernier est très préoccupé aussi, et je crois qu'il va suivre de très près la situation étant au Nord-Kivu.
Mais ce n'est pas la première fois, Monsieur Mubonzi, qu'un site des déplacés soit attaqué par des hommes armés. Mais quelles sont les dispositions prises? C'est vrai, vous, c'est l'Assemblée nationale, il y a l'exécutif, mais qu'est-ce que vous faites au niveau de l'Assemblée pour pousser l'exécutif à protéger tous ces déplacés qui sont dans les camps, qui se sont abandonnés par le gouvernement?
Mais écoutez, madame, qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée nationale si ce n'est de contrôler le gouvernement, c'est rassurer s'ils sont en train de faire leur travail comme il faut et faire des recommandations pour que ces derniers puissent savoir quoi faire exactement. Nous sommes les élus du peuple. Cela veut dire la situation que traversent les déplacés internes, nos frères et sœurs qui sont obligés de quitter leur village, leur territoire et aller vivre dans les camps, nous préoccupe au plus haut point. Nous sommes très préoccupés par cette situation et je peux vous rassurer qu'à ce stade ici, moi-même, j'ai récemment été au Nord-Kivu avec le Premier ministre. Nous avions eu des échanges, en tout cas très, très clairs, avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises, mais il faudrait que nous puissions considérer une chose. Nous sommes en pleine guerre. Notre pays est envahi, madame. Nous sommes dans une situation très préoccupante par rapport à vis, évidemment, des ennemis de la République qui s'avèrent être des pays voisins. Et nous devons faire très attention. Ce qui se passe, effectivement, va dans le sens de piétiner toutes les démarches effectuées par le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, effectué par le gouvernement ainsi que l'institution parlement pour que nous puissions restaurer la paix et la sécurité dans toute cette partie de la République. Et donc, rassurez-vous qu'on ne va pas croiser les bras, et les bras ne sont jamais croisés. Nous sommes en train de réfléchir pour que nous puissions très rapidement, nous, en tant qu'Assemblée nationale, faire des recommandations qui iront dans le sens de pousser vraiment les autorités militaires à prendre des dispositions pour sécuriser les déplacés internes que nous avons.
Alors, ces discours, on l'a entendu plusieurs fois, Monsieur Mubonzi, des dispositions sont en train d'être prises pour sécuriser la population. Je vous rappelle qu'en 2022, au mois de février, plus de 60 déplacés avaient été tués par les miliciens de la CODECO. C'était le même discours. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de personnes qui sont encore massacrées. Alors, c'est quoi ces dispositions que l'on prend mais qui ne portent pas de fruits?
L'heure n'est pas au discours, je suis tout à fait d'accord avec vous. Face à de tels massacres, Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, madame? Si ce n'est le ras-le-bol, mais aussi prendre des dispositions. Les seules dispositions que nous pouvons prendre à ce stade, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est de savoir d'abord quelles sont les dispositions au niveau territorial avec le gouverneur militaire et tout son staff. Mais au niveau national, par rapport au ministre de la Défense, il est déjà saisi de la situation. Lui-même, il est dans la région et je suis certain qu'avant qu'il ne quitte Goma, certaines dispositions vont être prises et même annoncées, surtout pour la sécurisation de tous nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui se retrouvent déplacés dans notre propre pays.
Alors, ce massacre intervient 10 jours après le dialogue entre 4 groupes armés, dont la CODECO, qui est accusée d'ailleurs d'avoir tué, se déplacé dans le site Lala. Alors, 10 jours après la tenue de ce dialogue, à l'issue même de ces pourparlers, les milices ou miliciens s'étaient engagés pour la énième fois à mettre fin aux hostilités et à respecter les instruments juridiques nationaux et internationaux. Peut-on parler, après cette attaque des miliciens, peut-on parler de l'échec de ces pourparlers, comme beaucoup d'autres initiatives d'ailleurs allant dans ce sens?
Bon, vous, tout à l'heure vous demandiez quelles sont les initiatives, mais vous savez madame, lorsqu'on parle de pourparlers qui ont comme issue des décisions prises en termes d'engagement pour mettre fin aux hostilités et respecter les instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Ce sont des initiatives très louables, mais ici, il est question de se rassurer que les uns et les autres sont totalement engagés et totalement sincères dans les accords qu'ils prennent et dans les engagements qu'ils prennent. Donc le gouvernement est très déterminé de mettre fin à cette guerre sur le plan militaire, mais aussi à rester ouvert pour le pourparler. Et je crois que sur ce point, il n'y a aucun doute. Mais ici, comme je venais de le dire, il est plus question d'être sincère. Et la sincérité, aujourd'hui, nous pensons qu'elle nous pose problème dans le chef de certains groupes armés. Et il faut que nous puissions, à un certain moment, prendre la décision de taper sur la table et de mettre fin militairement à cette situation qui continue à nous endeuiller. Et cela est totalement inacceptable.
Gratien de Saint-Nicolas vient de nous rejoindre dans ce studio de Radio Kapi, les députés nationaux élus de la ville de Bounioni-Touri et cadre d'Ensemble pour la République, parti politique, membre de l'opposition. Gratien de Saint-Nicolas, Irakian, quelle lecture vous faites de cette énième attaque contre un site déplacé par la milice CODECO?
Merci, bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs. Je commence par compatir avec toutes les familles qui sont aujourd'hui victimes, qui ont perdu le leur. La situation que nous traversons à Ituri, évidemment, on l'a toujours dit, c'est pratiquement un résultat de mauvaise gouvernance, tout simplement. Vous savez que les massacres que nous connaissons, c'est la conséquence d'une mauvaise gouvernance sécuritaire. Et ce qui est vrai est que nous avons un sérieux problème avec l'autorité de l'État. Vous savez, quand vous prenez aujourd'hui l'Ituri, je dirais peut-être que à 50%, l'Ituri n'est plus contrôlé par l'État congolais. Parce que vous avez pratiquement des miliciens qui opèrent partout, des groupes armés qui opèrent partout. Nous avons 5 territoires et la ville de Bounia.
Vous prenez malgré Mambata, l'état des sièges, l'Ituri n'est pas contrôlé par le gouvernement.
Oui, il y a un problème d'autorité de l'État. Donc, quand vous prenez le territoire de Ndjougou, où il y a beaucoup de problèmes, je ne pense même pas que l'État congolais puisse contrôler même les 3/4 de Ndjougou. Parce qu'il n'y a que des groupes armés qui opèrent. Parce que si nous commençons par énumérer toutes les chefferies qui existent dans le territoire de Ndjougou, vous trouverez que pratiquement la présence de l'État, elle est vraiment insignifiante. Parce que vous savez, l'autorité de l'État se manifeste par la présence massive de l'armée congolaise, la présence massive de forces de sécurité. Donc je parle de l'armée, je parle de la police, mais aussi de l'administration de l'État. Mais ici, on est face à une situation, celle, les autorités administratives sont parfois en place ou non, ou alors des autorités administratives qui sont en place mais qui ne contrôlent pas la totalité du territoire sous leur gestion. Et donc, quand maintenant l'autorité, quand il faut faire appliquer la loi, vous savez que même la justice congolaise ou la justice en général, quand elle veut faire appliquer la loi, il faut qu'elle soit soutenue par des forces de sécurité, notamment la police, notamment l'armée. Donc, vous avez affaire à une province où pratiquement aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a que le territoire d'Arou qui n'a pas de groupe armé. Donc, on a Mambasa qui est complètement envahi par les groupes armés. Vous avez Irumu complètement envahi par les groupes armés. Vous avez la ville de Bunia où il y a des miliciens qui circulent paisiblement à travers la ville. Vous avez les territoires d'Enjougou. On n'en parle même pas. Et Mahagi aujourd'hui où la moitié aussi.
Est-ce qu'on a une idée sur le nombre des groupes armés qui opèrent dans la province de l'Ituri?
Actuellement, on dépasse même 12, donc autant vers 15 groupes armés, mais c'est difficile maintenant même de parler des 12, des 15 groupes armés, parce qu'il y a des groupuscules armés. Donc, il y a tellement de scissions entre les groupes armés, que maintenant, il y a beaucoup de petits groupes, des petites bandes qui circulent avec des armes. Et donc, c'est difficile de contrôler actuellement les groupes armés. Donc, vous avez une situation où un chef de milice ou un chef de groupe peut apposer sa signature sur un document, mais cette signature n'engage pas toutes les factions qui existent sur le terrain. Donc la situation n'est plus contrôlable aujourd'hui par l'État congolais, même si l'État ne veut pas accepter, mais c'est ça la vérité. Vous savez par exemple des situations où il y a des forces d'autodéfense qui sont en train de gérer parce qu'il n'y a pas de FARDC. Vous avez des situations où aujourd'hui il y a beaucoup de groupes armés des CODECO qui gèrent parce qu'il n'y a pas de FARDC. Vous avez les FRPI qui gèrent aussi parfois parce qu'il n'y a pas de FARDC. Donc il y a vraiment un problème sérieux. Et là où je me dis, c'est le problème des gouvernances chaotiques aujourd'hui qu'on est en train de remarquer.
Mais l'État fait quand même des efforts en initiant des pourparlers, de dialogues avec ces groupes armés pour essayer de trouver des solutions. C'est quoi leur revendication? Essayer de trouver des solutions à leurs problèmes, ainsi pacifier la province. C'est des initiatives à encourager et à louer, je pense.
Je n'ai pas découragé ces initiatives-là. Même moi, j'encourage les pourparlers. Mais vous ne pouvez pas engager des pourparlers quand il n'y a pas une force de dissuasion. Parce que la personne qui possède l'arme, cette personne a une force, a un pouvoir avec cette arme. Donc, il faut que la personne se sente contrainte pour pouvoir dialoguer. Mais quand il n'y a pas de force de contrainte, de force de dissuasion, on ne sait pas arriver à un résultat. Parce que là, ce qui se passe en Ituri, nous comptons sur la bonne volonté des miliciens ou des groupes armés, des membres des groupes armés. Or, s'il faut compter sur leur bonne volonté, ils sont libres ou pas, contrairement par exemple à la situation qu'on a connue à l'époque vers l'année 2000, les années 2000, 2001, 2002, 2003, où on a accentué la pression avec la présence de la MONUSCO, avec les chapitres 7, où il y avait la force Artemis française qui était là. Donc il y avait des forces, des dissuasions, des contraintes pour que les miliciens ou les groupes armés se sentent obligés de déposer les armes, d'intégrer les groupes de démobilisation, ou alors d'engager des pourparlers. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de base pour que ces jeunes gens, aujourd'hui d'ailleurs, qui transforment aussi ces opérations plus à des opérations économiques, parce que vous savez qu'on a des groupes armés qui gèrent des mines d'or, ou soit qui sont en train d'occuper des portions où il y a l'élevage de bétail, ou alors là où il y a des grandes zones agricoles. La situation, elle est devenue extrêmement compliquée. Il n'y a que la responsabilité de l'État aujourd'hui pour mettre fin à cela.
Alors, en parlant des sites miniers, il y a un auditeur qui nous écrit depuis l'Ituri, il s'appelle Senga Gabo, il dit ceci: ces nouveaux massacres des déplacés du site Lala prouvent à suffisance que ce sont certains élus, notables chefs coutumiers et j'en passe de cette partie du pays qui sont contre l'état des sièges, qui manipulent les jeunes des Djougou pour ainsi pousser le gouvernement à lever l'état des sièges, qui bloquent certaines de leurs activités illicites des minerais dans la province de l'Ituri.
Non, je pense que l'auditeur n'a pas tout à fait raison, parce que les forces de sécurité...
Mais c'est pas la première fois que l'on parle quand même, qu'on dit qu'il y a des tireurs de ficelles à partir de Kinshasa, qui sont derrière ces jeunes dans l'Ituri.
Je suis vraiment clair dans mes affirmations. Les forces de sécurité, à savoir l'armée, la police, les renseignements et consorts, ne sont pas régis par l'état des sièges. Donc, même ce qui est état des sièges ou non, les opérations continuent normalement avec les forces de sécurité. Vous savez que si on parle des Nord Kivu, les MV3, on a mis en déroute les MV3, ce n'était pas avec l'état de siège. Revenons même dans les contextes de l'Ituri. La fois passée, quand l'Ituri a connu des massacres avec des parties, dis-moi, avec des groupes armés comme IPC, avec les PISIC, avec tous les groupes armés FNI à l'époque, ce n'était pas l'état de siège qui a apporté la solution. Donc, je pense qu'il faut dissocier et ne pas penser que c'est l'état de siège qui donne le pouvoir aux militaires d'opérer. L'état de siège aide tout simplement les militaires à pouvoir entamer un protocole qui permet à ce qu'ils contrôlent et l'administration et les opérations armées, parce que les civils ne sont plus à mesure d'expédier ou d'assurer l'administration de territoire. Donc ce sont des situations qu'on ne peut pas simuler aujourd'hui à l'état qui ne devrait, à l'état de siège qui devrait être un état d'exception, mais aujourd'hui on sait que l'état de siège n'est plus un état d'exception. Donc rien ne sert à ce qu'on se couvre derrière l'état de siège, mais ici il s'agit plutôt de la responsabilité du gouvernement pour s'exécuter en tant que patron, en tant que l'autorité de l'État, pour pouvoir s'assumer et mettre hors des toits, hors de d'État, tous ceux qui veulent nuire la province. Parce que vous savez qu'il y a l'appareil étatique. Par exemple, quelqu'un qui sanctionne ou quelqu'un qui fait une faute, il faut l'attraper, il faut l'amener vers des juridictions qui permettront à ce qu'on puisse les juger et les mettre en prison ou soit les condamner. Mais aujourd'hui, vous avez des miliciens qui opèrent, il n'y a pas moyen de les contraindre. Il n'y a pas moyen d'abord de les attraper. C'est difficile de les contraindre et de les amener devant la justice qui ne fonctionne pas tout à fait bien, ou alors de les condamner. Donc, les processus aujourd'hui de la gestion d'un pays en Ituri, ça pose problème, et même dans le Nord Kivu. Donc, c'est une situation qui va au-delà de ce qui est normal.
Didier Bitaki, vous êtes ancien membre des groupes armés Kivu. Actuellement, vous êtes expert en désarmement et en droit international humanitaire. Votre lecture sur cette situation?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. Tout d'abord, je compatis sincèrement avec les victimes qui ont été touchées par cette barbarie des groupes armés, quels que soient les auteurs. Et ensuite, je condamne avec fermeté le fait que des gens se soient transformés en animal pour massacrer leurs semblables et sans pitié et sans cause. En tout cas, c'est une situation inacceptable que nous mettons sur le dos de ceux qui dirigent le pays. Quant à ce qui concerne la lecture à faire par rapport à cette situation, pour moi d'abord je suis déçu. Parce que lorsque j'écoute l'honorable chargé des questions de défense au niveau de l'Assemblée nationale et l'honorable Irachan, qui est originaire de l'Ituri, j'ai en face de moi apparemment deux membres de parlements différents. Il y a l'un qui explique la situation telle qu'elle se présente sans passion, il y a l'autre qui se comporte en porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qui agit comme s'il a été mandaté par le gouvernement pour défendre l'action gouvernementale dont il ne fait pas partie. Et moi, c'est une déception totale. Je voudrais rappeler à celui qui défend le gouvernement, pour cela que le gouvernement a un devoir de responsabilité et un devoir de redevabilité. Devoir de responsabilité, c'est-à-dire, il est censé assurer la sécurité de tout un citoyen partout où il se trouve sur le territoire congolais. C'est...
On a un petit souci avec votre ligne, Didier Bitaki. Essayez de bouger, de vous... Allô?
Oui, écoutez.
Allô, est-ce que vous nous entendez? Didier Bitaki, est-ce que vous nous entendez? Je crois qu'il y a un problème de connexion. Allez-y, on vous écoute.
Je vous entends très bien.
On vous écoute.
D'accord. Je disais ceci, que nous sommes en face d'un problème d'un gouvernement incapable d'assurer la sécurité de la population. Il a un devoir de responsabilité et de redevabilité. Un devoir de responsabilité, c'est-à-dire, il a l'obligation
d'assurer la sécurité et la protection de tous citoyens congolais sur le territoire national, partout où ils se trouvent. Ça, c'est un devoir inaliénable de l'État congolais. Un devoir de redevabilité, c'est-à-dire il doit rendre compte de son action à la population qui lui a confié le mandat de présider, de diriger sa destinée. Ce sont là les deux responsabilités qui incombent au gouvernement. Maintenant, lorsque je suis en face d'un député national qui était censé représenter le peuple, mais malheureusement, il semble représenter une famille politique. Et dans ses dires, ce que moi j'ai décèle, c'est comme si le peuple se trouvait dans un autre camp et ses dirigeants se trouvaient de l'autre camp. Personne ne s'occupe du sort de l'autre. Et pourtant, ces députés représentent la population et doivent parler au nom du peuple et non au nom de leur famille politique. Il faut qu'on cesse de politiser toute action et toute situation qui touche sur la vie des citoyens congolais. Deuxièmement, lorsque le député Iratian explique, présente la situation de manière globale telle qu'est vécue aujourd'hui, je suis en face d'une sorte d'absence totale de l'État. L'inexistence de l'État se fait remarquer à ce sens que même la mesure exceptionnelle qui a été prise en instaurant l'état de siège est comme si on a donné une carte verte, une carte blanche aux groupes armés pour occuper l'ensemble du territoire de l'Ituri, du Nord Kivu, où ces mesures sont d'application, et du coup, les autorités de l'état de siège sont en train d'observer comment est-ce que la situation se détériore. Parce qu'à l'époque, on pouvait utiliser la force pour neutraliser certains groupes, pour chasser certains groupes, sans que ce soit une mesure exceptionnelle dont l'administration ou la décision est confiée aux militaires. Et madame, vous pouvez vous poser la question, si aujourd'hui, le Nord Kivu, l'Ituri se retrouve dans une mesure d'exception, un état de siège qui est à la fois une sorte d'état de guerre, les militaires ne parviennent pas à imposer la paix, ils ne parviennent pas à restaurer la sécurité. Quelle autre mesure faudra-t-il utiliser pour en arriver là, pour sécuriser la population? C'est-à-dire, là il y a une démission totale du pouvoir public. Et moi je me dis, dans cette situation ici, c'est que, soit c'est de la mauvaise foi de l'autorité qui gère la République qui ne parvient pas à imposer son pouvoir sur les exécutants sur le terrain, ou alors tout simplement il ne contrôle rien, ou c'est l'inefficacité des éléments engagés dans les opérations de l'État.
Je crois qu'on a un souci avec la ligne de Didier Bita qui on va essayer, la réalisation va essayer de résoudre ce problème. En attendant, on va ouvrir notre standard pour prendre les questions des auditeurs, les questions que les auditeurs posent par rapport au thème de ce soir. Ils sont très nombreux à nous appeler. On va se rendre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
Rémi Lokonga, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo, tout a présenté les condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Cette énième attaque contre un site de déplacés dans la province de l'Ituri par les hommes armés se justifie, à mon avis, d'une part, par l'incapacité du gouvernement à sécuriser la population et ses biens, et d'autre part, par le fait que les pourparlers qui ont eu lieu à Aru n'ont pas inclus tous les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Une façon pour ceux qui ont été écartés de montrer que ce n'est pas en dialoguant avec ces quatre groupes seulement que l'affaire sera résolue. Il faut inclure tout le monde dans le processus. La plus grande difficulté que connaît notre gouvernement depuis toujours est celle de ne pas être en mesure d'identifier ou de lister les groupes armés qui insécurisent la région. Or, il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'éradiquer ou de résoudre un conflit par le dialogue, sans pour autant dresser la cartographie de ces derniers, c'est-à-dire identifier les acteurs manifestes et les acteurs latents qui y sont impliqués. D'où la nécessité de rendre ces pourparlers les plus inclusifs pour éviter ce genre de drame en termes de revendications.
Bertrand Mouvonji, que pensez-vous de ce point de vue, du point de vue de Rémi Lokonga depuis Kisangani?
Bon, écoutez, je pense que Rémi n'a pas totalement tort, mais je voudrais, je l'ai suivi d'ailleurs par la bouche de l'intervenant qui a précédé Rémi, où il parle de la passion et de l'appartenance à c'est comme si on défendait le gouvernement. Je voudrais ici appeler vraiment les uns et les autres à dépassionner le débat. Nous avons affaire à une situation dramatique. D'abord, il y a la guerre qui nous est imposée par un pays voisin. Mais entre-temps, nous nous retrouvons aussi face à une situation de groupes armés locaux, de personnes qui malheureusement revendiquent en tuant nos propres frères et sœurs. Et donc, devant une telle situation, je ne pense pas ici qu'on devrait parler en termes d'un camp ou d'un autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la gestion de cette situation. Aujourd'hui, c'est une situation, c'est une gestion collégiale. Parce qu'à chaque fois que le gouvernement est impliqué dans la gestion de cette situation d'insécurité, le Parlement est impliqué. De la même manière que le Parlement est impliqué, nous portons la responsabilité, nous tous, et l'objectif de tout ce que nous menons comme action, en tout cas, c'est de restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République. Et donc, à ce stade ici, nous sommes très indignés, et je l'ai dit dans l'introduction, c'est une situation inacceptable, et il faudrait que des mesures soient rapidement prises pour que cela ne se répète plus jamais. On ne peut pas avoir de compatriotes dans leur état de vulnérabilité, dans des camps déplacés qu'ils sont, et qu'on retrouve encore de groupes armés, malheureusement, congolais comme nous, et qui acceptent de se livrer à ce genre de massacre de nos propres frères et sœurs. Et donc moi je pense que quelque part, c'est une situation qui nécessite absolument que nous puissions tous ensemble réfléchir pour trouver la bonne solution. Mais la solution, elle sera trouvée, parce que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, et comme je l'ai dit, que ce soit le chef de l'État, nous sommes tous déterminés à mettre fin à cette guerre. Et ce n'est pas mon ami et frère Irakan qui va me contredire, parce qu'il sait combien nous travaillons ensemble, et je pense que la beauté de tout ce que nous faisons, c'est effectivement cette contradiction qui existe par rapport à la démocratie. Irachan peut avoir un avis, je peux avoir un autre, mais l'objectif pour nous deux, c'est de trouver la voie qui va nous permettre de sortir de cette situation. Et nous sommes en train d'y travailler, et ça va prendre le temps que ça va prendre. Malheureusement, nous déplorons tout ce que nous enregistrons comme massacre, comme tuerie de nos propres frères et sœurs, mais rassurez-vous, madame, la détermination que nous avons au niveau du Parlement, la détermination qui est manifeste dans le chef du commandant suprême, ne va pas permettre que cette situation puisse durer très longtemps.
Alors, dans cette situation, on compte sur la bonne foi des miliciens qui ne sont pas sincères avec le gouvernement. Faut-il continuer à compter sur cette bonne foi? C'est une question qui s'est posée ici, dans ce débat, une question soulevée par le député Irachan.
Mais madame, vous savez, nous sommes en train de parler des questions purement sécuritaires. Je ne voudrais pas vous dire ici les efforts qui sont en train d'être menés par le gouvernement et les autres institutions pour que nous puissions avoir la montée en puissance de notre propre armée. Si vous demandez mon avis en tant que président de la commission défense et sécurité, je reste convaincu que seule notre armée va nous permettre de contenir cette situation et de mettre fin à cette guerre. Nous ne pouvons pas sous-traiter la sécurité de notre République. Et donc il faut y travailler, et nous allons y arriver, il faut que nous soyons déterminés, que nous gardons le cap, et que nous restons tous unis derrière notre armée, pour que nous puissions mettre fin à tout ceci. Et lorsque vous parlez de la bonne foi des groupes armés, mais c'est tout à fait clair, si nous avons aujourd'hui une armée capable de prendre et de contenir la situation que nous traversons, nous allons passer de l'étape de dialogue, l'étape de tâtonnement, peut-être que nous passerons, et il le faut, et je sollicite que cela se fasse le plus tôt possible. Il faudrait que nous puissions contraindre toutes ces personnes qui pensent que c'est avec la mort de nos frères et sœurs qu'ils peuvent accéder soit au pouvoir, soit à certaines richesses de notre pays.
Merci Bertrand Mobozi, Gracien de Saint-Nicolas Iratchan. On va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kinshasa.
Jean-Baptiste Léni Nyamoua depuis la ville de Kinshasa. La récurrence des attaques perpétrées par les groupes armés dans la province de l'Ituri à l'occurrence est à la fois la résultante de l'absence et les capacités de l'État de pouvoir restaurer la sécurité sur son territoire. Après plusieurs années, il est vraiment fatigant, inadmissible et aberrant de continuer de voir chaque jour la population itourienne se faire massacrer par ces petits groupes armés qui pouvaient être maîtrisés sans problème si les gouvernements congolais se définissaient une stratégie concrète, soit militaire ou soit par application du programme de leur intégration en milieu social. Dans les contextes actuels où notre armée, bien que la province de l'Ituri soit sous les temps de siège, mesure décrétée par les gouvernements il y a quelques années déjà, n'est pas à mesure de faire face à ces groupes armés, je crois qu'il serait hyper important que le gouvernement congolais, aussi négligent soit-il, puisse accélérer le processus d'intégration sociale de ces miliciens qui endettent la population itourienne en chaque seconde. Il faut que l'État congolais laisse sa négligence et qu'il s'occupe un peu de sa population meurtrie chaque jour. En ce qui concerne les dialogues tenus dernièrement au territoire d'Arou avec les représentants de ces groupes armés, aucune assurance car plusieurs assises ont été déjà tenues avec ces dernières sans aucune issue durable.
Gracien de Saint-Nicolas, brève réaction.
Non, je pense que l'auditeur a complètement raison. Je ne peux même pas contredire un seul mot de ce qu'il a dit, parce que c'est ça, en tout cas, la réalité sur terrain. Parce qu'il faut le dire clairement, il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui. Et tout le monde est fatigué de cette guerre, tout le monde est fatigué de ces massacres. Y compris, ce qui est grave, même la communauté internationale est fatiguée de tous les rapports que rapportent les ONG. Parce que je vous rappelle, en passant, qu'il n'y a pas d'assistance humanitaire aujourd'hui. On est en train de voir aujourd'hui peut-être les carnages ou les massacres à masse. Mais je vous dis qu'elle dit tous les jours, il y a des morts en Ituri, tous les jours. Parce que vous avez des déplacés qui sont dans des camps et qui n'ont pas à manger. Et ils sont obligés d'aller chercher à manger dans leur champ. Et quand ils vont tuer une personne, deux, trois, et c'est tous les jours où il y a trois, quatre, cinq personnes tuées, on n'en parlait plus. Et moi, je condamne fermement le gouvernement aujourd'hui qui ne veut plus qu'on fasse des bruits sur ceux qui sont en train de mourir. Parce que vous ne trouverez même pas l'état de siège ou le gouvernement de l'état de siège s'est prononcé par rapport au bilan de ceux-là qui sont décédés. Tous les jours, il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais je voudrais aussi vous dire quelque chose par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas d'opération armée, qu'on ne vous trompe pas, depuis que le gouverneur est passé à Ituri. Il a lancé une phrase que tout le monde sait aujourd'hui, Ituri, je serai sans état d'âme. Ça, c'est le jour où il est venu à l'aéroport. Mais je vous dis qu'il n'y a pas d'opération militaire. Mais on est dans un état de siège. On est supposé avoir des offensives militaires. Mais il n'y a pas d'offensives militaires, il n'y a pas d'opération. Alors du coup, la population se demande...
Vous êtes député, vous n'avez pas posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'opération en Ituri.
Je l'ai posé plusieurs fois.
C'est quoi la réponse qu'on vous a donnée?
Je pense que mon collègue Bertin qui m'écoute, il sait que dans la commission défense et sécurité, plusieurs fois nous avons débattu de cette question.
Mais c'est quoi la réponse qu'on vous donne?
Fois, la réponse, on nous dit, bon, prochainement il y aura des opérations militaires, et voilà, on faisait ceci, on faisait ceci, on donne la chance à tous les groupes de pouvoir remettre les armes et que prochainement... Mais il n'y a jamais eu d'opération militaire. Et donc la population itourienne maintenant se dit, bon, peut-être qu'il y a un plan d'extermination contre la population, ou alors il y a cette négligence. On vise peut-être affaiblir ou alors anéantir la population, l'avenir de peuples itouriens. Donc ce sont des choses qui existent et que nous n'allons pas, en tout cas aujourd'hui, manquer de dénoncer. Et je vous dis par exemple, quand on parle des dialogues, moi j'aime beaucoup les dialogues, mais vous ne pouvez pas aller discuter sur des choses que vous ne connaissez pas. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Est du Congo, que ce soit l'Ituri, on n'a jamais fait le diagnostic des problèmes pour comprendre c'est quoi ce qui se passe en Ituri, pourquoi il y a des massacres, qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas arrêter ces massacres. Quel est le vrai problème? Il n'y a jamais eu de rapport, que ce soit l'Assemblée nationale ou une institution du gouvernement, aucun rapport. Alors, on va parler sur quoi? On va parler de quoi? Et vous savez qu'il y a des initiatives aujourd'hui où même les communautés boycottent ces dialogues en disant que non, mais nous ne savons pas pourquoi vous nous appelez, parce qu'on ne sait pas de quoi nous parlons. Donc, le problème est tellement sérieux, où d'où j'ai rejoint ce que l'auditeur a dit, il y a une négligence totale du gouvernement, ou alors il y a un plan que nous ne comprenons pas du gouvernement contre la province de l'Ituri.
Didier Bitaki, on va prendre très rapidement cette dernière réaction, encore une fois, qui nous vient de Kinshasa, pour vous.
Japhet Ihonga depuis la ville de Kinshasa. La situation de l'est du pays est toujours alarmante. Nous continuons presque chaque semaine de pleurer nos frères et sœurs par l'inefficacité du gouvernement congolais pour imposer la paix dans cette partie du pays. C'est inadmissible de voir en plein état de siège ces rebelles continuer leurs aventures. À mon avis, je constate que la situation de l'Est dépasse même à nos autorités car tous les plans ou stratégies que le gouvernement a mis sur le terrain continuent à échouer. D'où nous demandons au gouvernement de chercher d'autres moyens pour imposer la paix, ça passer par le dialogue car les miliciens ont trouvé une faiblesse du gouvernement et ils continuent ses habits.
Alors, Didier Bitaki, que pensez-vous de ce que vient de dire Japhet Martin Ihonga? Cette situation dépasse même les autorités, c'est son impression. Hein. Il pense qu'il faut trouver d'autres stratégies, mettre en place d'autres moyens pour imposer la paix, sans passer par le dialogue.
Mais qu'il faut, au-delà de ce que l'auditeur vient de poser comme situation, et ce qu'il pense, lui, en tant que Congolais, c'est la pensée de tous les citoyens congolais est pris de paix. Dans ce cas ici, je répète, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de développer, en tout cas mon argumentaire par rapport à la première étape.
On a eu encore des problèmes de connexion, il faut y aller rapidement parce qu'on tombe early à la fin de l'émission déjà.
Oui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit nous dire que le gouvernement est en train d'adopter.
Didier Bitaki, je crois qu'on nous a encore perdu.
Le gouvernement, ce n'est plus aujourd'hui. Le parlementaire existe depuis 2018 où ils ont été élus. Ils auraient proposé des plans bien avant qu'aujourd'hui. Nous sommes à 6 mois de la fin du mandat. Et ils n'ont rien fait jusque-là. Le problème de l'Ituri aujourd'hui interpelle tout le monde. La communauté internationale s'est enlacée de cette situation qu'elle n'est plus même prête à apporter de l'aide humanitaire même aux sinistrés ou aux déplacés de guerre du fait que chaque jour, la même situation revient sur la table. Quand vous regardez les agissements de l'état de siège, le député Irakan vous a dit, les groupes armés sont en train de se promener, y compris dans la ville de Bounia, en toute quiétude sans que les autorités de l'état de siège ne puissent réagir. C'est-à-dire quelque part, il y a une certaine complicité de ce qui était censé assurer la sécurité et la protection de la population. On ne peut pas exposer une population comme cela et se dire que parce que nous avons peut-être un cadre ou peut-être nous allons dialoguer, qu'on assure malheureusement la bonne voie des groupes armés qu'on va résoudre le problème.
Alors, c'est quoi la solution aujourd'hui? Parce que on a l'impression que les dialogues ne marchent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très brièvement.
Face à un terroriste, on ne dialogue pas. On prend les armes, on les contraint soit à déposer les armes ou à se faire neutraliser par la force. C'est ça l'unique moyen de résoudre le problème de l'Ituri. Mais lorsqu'on n'est pas capable d'organiser un système de défense offensive et dissuasive, on met la population en danger parce qu'on d'un côté on déclare qu'on est capable de faire la guerre, on a une armée. De l'autre côté, quand on va sur le terrain, il n'y a pas de force. Alors dans ce cas, on expose la population aux réactions de ces terroristes. Ce ne sont pas des groupes avec lesquels il faut discuter, ce sont des terroristes. Il faut les neutraliser par la force.
Merci. Enfin,
les députés nationaux avaient fait...
On a un gros souci.
Ils sont incapables de proposer cela aux dirigeants de commande de l'armée. Alors, ils n'ont qu'à quitter l'Assemblée nationale. Ça, c'est une réponse que tu réponds dans ce cas-là.
Merci Didier Bitaki, Gracien Saint-Nicolas Iratian. Très rapidement, vos propositions pour finalement arrêter ces massacres à répétition dans la province de l'Ituri.
Il n'y a pas une autre piste que la responsabilité du gouvernement. Et quand je vois les gouvernements, en fait, je vois l'État congolais, c'est toutes les institutions qui doivent s'assigner. On doit respecter les institutions, judiciaires, respecter l'Assemblée nationale, respecter toute institution, présidence, tout ça. On doit s'assigner et aller dans le sens de respecter chaque pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui détruit les pays, c'est parce qu'il y a un méli-mélo, et chaque institution veut s'interposer sur l'autre, et finalement, on ne se respecte plus, et la conséquence, il y a un désordre organisé partout. Et donc, nous tirons conséquence par rapport à la mauvaise volonté du régime Chilombo de pouvoir, en tout cas, nous sécuriser. Et donc, aujourd'hui, nous sommes massacrés. Tout simplement parce que nous n'avons pas la force de pouvoir nous défendre. Mais un jour viendra où nous allons résister aussi.
Bertrand Mbonzi, votre conclusion.
Vous savez, madame, je suis un peu gêné. Hein, un peu gêné parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici nous sommes en train de parler d'une situation dramatique de nos frères et sœurs qui ont été massacrés. Et nous devons plus orienter nos interventions vers des solutions, comme vous venez de le dire d'ailleurs. Et donc je suis d'ailleurs très surpris par la conclusion de mon collègue Irakhan. J'ai l'impression de ne pas être dans le même parlement avec lui lorsqu'il parle de respect des institutions. Je ne sais pas de quoi il parle personnellement, parce que aujourd'hui, comme je le dis, quand vous prenez l'institution président de la République, il ne prend aucune décision sans pour autant consulter le gouvernement, consulter le Parlement. Et c'est des réunions dans lesquelles, d'ailleurs, Irakhan lui-même a participé.
Alors,
et donc,
il
les
faut
décisions,
conclure.
Parfois, se
il
prennent
faut conclure,
au niveau.
Bertrand
et là, je parle de l'institution président de la République.
Bertrand
Lorsque
Mbonzi,
vous prenez
il faut...
l'institution gouvernement,
Bertrand Mbonzi, s'il vous plaît.
Termine, madame. Le
on a besoin des solutions.
Il est dans
on
une
a besoin.
Mission d'évaluation de l'état de siège. Il implique le Parlement. Et donc, nous sommes tous impliqués. Nous nous respectons mutuellement.
La
les
solution,
institutions
c'est quoi,
sont mobilisées au cours du commandant suprême pour trouver une solution au problème que nous traversons. Et la solution, comme je l'ai dit, la première, c'est très rapidement prendre des dispositions pour que le camp des déplacés soit désormais sécuriser et empêcher que ce genre de situation ne se répète. Deuxièmement, investir dans notre armée. Nous sommes en train d'y travailler, je peux vous le rassurer. Je ne saurais pas en dire plus, mais il faudrait que nous puissions compter sur notre armée. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité. Le ministre de la Défense, aujourd'hui, il est à Goma. Demain, ce sera peut-être l'étape de l'Ituri. Vous pouvez vous rassurer qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et qui va aboutir à une table ronde où des mesures seront prises et le chef de l'État va prendre une décision pour que nous puissions mettre fin à cette situation.
Merci Bertrand Mbonzi, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui a réalisé cette émission. Donna Madimba nous a aidé dans la prépa. Ration, voilà, je voulais dire. Au micro, Kéline Kouté, Pierre Diassino a été à la mise en onde. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.